Comment est-ce que la technologie a changé votre vie au cours des dernières années? Je ne parle pas seulement dans votre quotidien, mais en réalité, je vous parle comment ça a changé votre façon de penser, comment ça modifie vos schémas mentaux pour faire en sorte que vous pensiez différent. Parce que vous le voulez ou non, ça a eu un impact. Comme ça a eu un impact sur moi. C'est sûr que personnellement, moi, je ne retournerai pas en arrière. Je regarde toujours vers l'avant face à la technologie. Mais même si j'embrasse cette technologie-là, j'en profite à fond, je trouve qu'il y a certains bienfaits dans la vieille technologie, ou plutôt d'anciennes technologies ou d'anciennes façons de faire. Évidemment, il y a le côté de la rapidité, de la vitesse, où est-ce qu'on a gagné beaucoup en vitesse, c'est sûr, mais en même temps, il y a le côté de prendre le temps de faire les choses. Personnellement, je le vois beaucoup avec la photographie. Je vais être très honnête, j'ai pas nécessairement une façon très différente de prendre des photos comparées à lorsque j'étais étudiant au cégep où est-ce que je prenais le temps de m'appliquer. C'est toujours la même chose, je prends toujours le temps de m'appliquer. La seule différence dans mon cas, c'est que je n'ai pas à changer le film dans la caméra maintenant. Je peux prendre 60 photos de suite et ça fonctionne. Il y a une chose par contre qui a changé par rapport à ça, même si je n'ai pas changé ma façon de faire. Le simple fait qu'on est limité par le nombre de poses fait en sorte que, on avait peur de se tromper, on s'appliquait un tout petit peu plus lorsqu'on prenait nos photos. Il y a aussi quelque chose qui est dommage dans un sens que les gens de la nouvelle génération n'expérimenteront pas, c'est la magie du développement. Le geste d'aller chercher ses photos à la pharmacie, je ne sais pas si vous vous rappelez, on allait porter nos films, et là on nous disait que ça allait être prêt dans une semaine, ou bien si on allait dans un comptoir photo, on nous appelait au bout de quelques jours pour nous dire que nos photos étaient arrivées. Et je ne sais pas si vous vous rappelez l'excitation qu'on avait. Puis moi, j'ai des souvenirs à différents moments, à différents endroits où est-ce que j'étais, où est-ce que j'ai fait préparer mes photos, où est-ce que j'ai pris l'enveloppe et là, je me suis en allé dans la voiture et là, le plaisir de regarder dans ma voiture, je me rappelle, à 17-18 ans, regarder les photos que j'avais prises et me rappeler ces souvenirs-là. Et c'était drôle parce que j'avais un peu le même rituel. Je regardais toujours une première fois très rapidement et là, une deuxième fois, je prenais le temps de regarder ces images-là. Et ce qui est le fun, c'est que encore aujourd'hui, ces photos-là me suivent et j'ai le même plaisir à les regarder à nouveau. Ce qui n'est pas nécessairement toujours le cas avec nos photos numériques, où est-ce que on en a tellement, on en prend tellement souvent maintenant, qu'on les oublie et on finit par ne plus les regarder. Et je trouve que, qu'on le veuille ou non, en quelque sorte, on était beaucoup plus zen à cette époque-là, par rapport à la technologie, lorsque on avait le temps de prendre le temps. Mon nom est Sylvain Grandmaison et vous écoutez Le Québec en balado-diffusion.
Four walls, sent inside forever. forever.
Never seeing no one nice again like you, Mama, you, Mama, you.
C'est notre ami Paul McCartney and the Wings, Band on the Run. Je suis une vieille technologie du siècle dernier. Non, blague à part, c'est l'épisode 74. 74 étant l'année de ma naissance. Oui, je suis un produit des années 70. Et je ne sais pas si vous avez déjà regardé sur Internet, mais qu'est-ce qui était la chanson numéro 1 la semaine où vous êtes né. Et ben moi, j'ai regardé, puis si on regarde ce que nous dit le Billboard, ça nous dit « OK, cette journée-là, il y avait telle toune de populaire ». En réalité, les charts qui sortent sont pour la semaine précédente. Fait que ça dit ce qui a été populaire la semaine précédente. Donc, si je regarde, je pense qu'il y a des charts qui sont sortis la journée où je suis né, qui disaient ce qui avait été populaire la semaine d'avant, mais la semaine où ce que je suis né, moi, c'est Band on the Run qui était la toune numéro 1. Beau hasard, moi qui est un fan de Paul McCartney depuis très longtemps. Et cette chanson-là, c'est une chanson qui faisait un clin d'œil aux Beatles, The Band on the Run. Donc voilà, oui, je suis une vieille technologie et j'enseigne la photographie. Dans un cours de graphisme, évidemment. Donc, j'enseigne le graphisme, mais particulièrement, ça m'arrive de donner les cours où est-ce qu'on doit, manipuler les appareils photographiques. Je leur montre à prendre des photos pour les utiliser dans des projets de graphisme. Et dans le premier cours qui est donné, on fait toujours de la photo argentique, c'est-à-dire avec du film noir et blanc, où est-ce qu'on développe, je leur montre tout le processus de développement. Évidemment, moi, je peux pas nécessairement, je suis pas capable de juste montrer à le faire tel quel. Je leur montre à utiliser ces choses-là de façon très créative. Et on arrive avec des résultats qui sont impossibles à faire avec Photoshop ou ce serait extrêmement difficile et ça prendrait énormément de temps, beaucoup plus de temps que de le faire de la façon que je le montre. Donc, il y a quelque chose de le fun de revisiter ces technologies-là, et probablement que il y a une certaine chose que je fais, que je montre à faire, qui ne serait pas possible ou que je n'aurais pas pensé à faire moi-même il y a 15 ans, il y a 20 ans, lorsque j'étais moi-même étudiant. J'aime le processus, pas juste de prendre des photos, mais le développement, tout ça. La chambre noire, l'odeur des bains de développement, j'y vais, puis à chaque fois, je me revois moi-même étudiant. Et il y a un côté bien zen d'être justement dans le noir, puis lorsqu'on développe le papier, par la suite, être dans le noir avec la petite lumière rouge, sentir ces produits-là. Moi, j'aime ça. j'aime beaucoup ça. Et j'aime mélanger les technos. Comme je vous ai parlé l'autre fois de mon ami John Meadows, qui est un fan de photos traditionnelles. C'est un fou. Beaucoup plus que moi. Moi, j'aime ça, mais lui, il en bouffe. Il prend des photos, il développe presque quotidiennement. Il a pris des photos de moi et d'autres personnes lorsqu'on s'est vu l'autre fois. Il avait apporté un appareil qui date à peu près des années 1950, sur lequel il a monté une lentille des années 1860. Non, pas 1960, vous avez bien entendu, 1860. C'est assez hallucinant et il n'y a aucun problème à faire ça en autant que justement en arrière, il peut faire le focus. Donc, il fait le focus avec sur ces appareils-là, c'est un verre dépoli qui est là. Donc, il faut se mettre une couverture noire par-dessus la tête pour être capable de voir le verre dépoli, voir la précision lorsqu'on fait le focus. Et après ça, on prend les photos. Et le résultat de cette lentille-là, des années 1860, est hallucinant. C'est le flou en arrière-plan est hallucinant. Il y a un effet de vignettage qui se fait aussi. Et c'est mille fois plus gros, plus beau que ce qu'on fait avec Instagram. C'est absolument hallucinant. Donc, ma photo de profil actuelle, c'est ça. C'est cette photo-là. Et c'est vraiment cool. Je voulais vous dire, je suis extrêmement chanceux depuis que j'ai recommencé à faire des podcasts. J'ai des commentaires de gens, de différentes personnes. Et Entre autres, un auditeur, je vais vous lire un peu, je ne vous lirai pas tout ce qu'il m'a écrit, mais c'est absolument touchant. Je ne vous dirai pas non plus c'est qui pour préserver l'anonymat de cet auditeur, mais c'est quelqu'un qui lui-même fait des podcasts, puis il me félicite pour mon dynamisme sur mon podcast. Il a eu peur lorsque j'ai fait l'émission qui s'intitulait « Si c'était le dernier ». Et je l'ai surpris avec un autre tout de suite après. Évidemment, j'ai recommencé un petit peu plus régulièrement à faire des podcasts. Et ça, c'est la beauté du podcasting. Si vous demeurez abonné, peu importe le temps qu'on arrête, lorsqu'on recommence, bien, vous recommencez à recevoir les épisodes et c'est magique. J'ai moi-même le bonheur, je vous en parlais tout à l'heure, d'avoir des podcasts comme ça que j'adore, qui disparaissent parfois et qui reviennent. Et ça, c'est vraiment plaisant. Évidemment, c'est sûr que lui, de son côté, il me disait que je l'ai en quelque sorte un petit peu inspiré à faire son podcast. Et c'est ça qui est le fun aussi avec le podcasting, c'est l'inter-influence. Moi, j'ai eu certaines influences. J'ai commencé en 2006, j'ai commencé à écouter fin 2004 des podcasts. Donc, fin 2004, début 2005, juste avant justement que iTunes annonce que le podcasting serait intégré à iTunes. Mes inspirations, il y en a plusieurs, mais il y en a entre autres un qui m'a influencé, qui n'est pas nécessairement spectaculaire, qui n'a pas eu nécessairement des grosses cotes d'écoute. Ça s'appelle Island Podcasting, d'un gars qui s'appelle Ted Reakin. J'en ai déjà parlé il y a très longtemps, un gars de la région de Vancouver. C'est un gars qui enseigne à l'université, qui a eu d'autres fonctions aussi à l'université. Je ne me rappelle pas exactement en ce moment c'est quoi son poste, mais il y a une position assez importante. Et c'est un gars qui a justement un côté universitaire, une bonne réflexion par rapport au monde qui l'entoure, par rapport à la technologie, par rapport à toutes sortes de sujets. Et moi, ça m'allume. Il faisait des podcasts qui étaient, qui changeait d'une fois à l'autre. Autant de fois, il pouvait nous faire un parallèle entre la technologie actuelle et le livre Frankenstein de Mary Shelley. Autant d'autres fois, il faisait du soundseeing. Il allait juste dans un festival de musique. Et des fois, pendant plusieurs secondes, il ne se passait rien. On entendait juste les bruits ambiants. Autant d'autres fois, il faisait un voyage puis il nous parlait de qu'est-ce qu'il avait vu, qu'est-ce qu'il avait frappé. Un peu tout ça. Donc, quand même éclectique. Et moi, ça m'a toujours beaucoup plu d'entendre ça. Et c'est un podcast qui avait, ma foi, disparu depuis à peu près 2 ans et plus, là, vraiment assez longtemps. Et quel bonheur de le retrouver. Il a fait, je crois, 3 épisodes récemment. Et c'est vraiment un énorme plaisir. Qu'est-ce qu'il fait en ce moment? qu'est-ce qui l'a poussé à recommencer? C'est que il a retrouvé dans un tiroir, plusieurs tiroirs, c'est-à-dire des coupures de journaux d'époque. À l'époque où est-ce qu'il n'y avait pas Internet. Donc, lorsqu'il y avait des événements importants, il achetait le journal et il gardait les articles importants. Comme par exemple, un épisode, il a parlé du décès de John Lennon. Donc, il avait acheté le journal lorsque ça s'est produit. Et il nous a parlé, il a refait une mise en contexte. Un peu tout ça. Donc, ce qu'il fait, c'est que, étant donné que, entre autres, sa femme lui a demandé de se débarrasser de tous ces vieux papiers-là inutiles, ce qu'il fait, il se sert de ces journaux-là pour aller les mettre au compost. Et pendant qu'il met petit à petit ces trucs-là au compost, il nous parle de ces événements-là, il recontextualise et il en profite aussi, justement, parfois pour parler de la technologie. Donc, c'est vraiment intéressant. Et ce qui est surprenant, c'est qu'il enregistre encore avec son Zoom, son iRiver et ses micros binaural, donc des micros stéréo qui vont dans les oreilles. Et ce qui est surprenant, c'est que c'est lui et entre autres 4-5 autres podcasters m'ont influencé au départ à commencer et acheter cet équipement-là. Donc, j'ai exactement le même équipement. La seule chose, c'est que le iRiver, il n'y a plus de logiciel qui est compatible pour transférer l'audio, le logiciel, étant donné que bon, ils ont changé la façon de compiler les données sur le système macOS, le logiciel qui servait à transférer n'est plus compatible aujourd'hui. Donc, je ne sais pas, je vais lui demander avec quoi il transfère ses fichiers, mais c'est absolument surprenant. Justement, ça me fait penser à une question d'obsolescence, parce que c'est du matériel pour moi qui fonctionne encore, ce vieux iRiver-là, mais je ne peux plus transférer les fichiers d'aucune façon, ce qui est un peu dommage. Parce que récemment, vous avez peut-être entendu le dernier épisode, l'épisode d'avant, il était en mono et a été enregistré avec mon Zoom H4, donc mon équipement régulier. Sauf que mon Zoom H4 commence à me lâcher. Je l'ai acheté il y a exactement... quoi? Je l'ai acheté 2006 ou 2007. Donc, ça fait quand même à peu près 8 ans ou 9 ans. Donc, il y a assez longtemps. Et il commence à me lâcher. Il y a un canal qui fonctionne de temps en temps, quand il veut bien. J'ai enregistré, à peu près 75 épisodes là-dessus. En même temps, j'ai enregistré beaucoup d'entrevues, beaucoup d'audio personnel, des souvenirs que je garde. Et... il a été extrêmement trimballé, plusieurs voyages un peu partout. Donc, c'est normal qu'il commence à lâcher, mais d'un autre côté, pour un appareil que j'ai payé à l'époque, à peu près 450$, je trouve ça plate, qu'il a peut-être enregistré, je sais pas, 150-200 heures d'audio seulement, et ça ne fonctionne plus. Ceci dit, j'enregistre en ce moment avec mon équipement top. Quand même, j'ai pas tout branché sur mon préampli, sur mon compresseur, mais ce que vous entendez, c'est enregistré avec ma grosse console 24 pistes, donc qui peut enregistrer 8 pistes simultanément. Donc, c'est assez intéressant, ça me remet dedans. Et ça aussi, c'est drôle, ça doit faire au moins 3 ans qu'il est dans la boîte, que je m'en suis pas resservi. Je pense que ça a servi 3 ou 4 fois, entre autres pour enregistrer un contrat de podcasting et même 2-3 contrats de podcasting et 1 ou 2 épisodes et je m'en suis pas servi récemment, j'ai pas eu l'occasion. Donc, c'est le fun, ça me fait retomber là-dedans et ça me fait voir que c'est une belle machine. C'est une belle machine parce que tout à l'heure, j'avais oublié de brancher mon iPad pour faire jouer la musique dessus. Et quand j'ai fait play, il n'y a rien qui se passait. L'audio ne se transférait pas. Et ce qui est arrivé, avec cet appareil-là, on fait stop. On fait juste revenir en arrière. C'est une vraie console d'enregistrement. On retourne où est-ce qu'on était, où est-ce que l'erreur s'est produite et on peut recommencer à enregistrer par-dessus. Ce qui est absolument, absolument magique. Donc, voilà pour mes histoires d'audio, finalement. Donc, pour revenir à nos moutons, avant d'y aller, oui, il y en a un, bien sûr, attendez un peu, un carburant de la semaine. Laissez-moi prendre ma bouteille. Et là, j'essaie de trouver... Ah oui, ici. mon débouche-bouteille. Donc, je vous dis c'est quoi? Ça s'appelle la noyade de la sorcière. C'est une IPA triple. Donc, une bière extra forte. 500 ml, 9,5% d'alcool. J'étais moins actif ces dernières années en podcasting, disons-le, depuis à peu près un an et demi. Et durant cette année et demie-là, la scène brassicole québécoise a explosé, s'est diversifiée. Si on recule d'un an et demi, 2 ans, il y avait des IPA, mais pas tant que ça. Il y en avait très peu au Québec. Et là, c'est incroyable la quantité. Et il n'y a pas simplement des IPA, il y a toute une panoplie de bières qui n'existaient pas il y a quelques années qui maintenant sont disponibles dans même plusieurs épiceries. Justement, il y a quelques années, des IPA, il n'y avait pas ça en épicerie. Il fallait absolument aller dans des dépanneurs spécialisés. Et là, maintenant, il y en a un peu partout. Même chose pour les bières qu'on appelle brettées, donc des bières dans lesquelles il y a des Brettanomyces, qui est un autre champignon qui sert à faire la fermentation, qui est autre que la levure et qui donne vraiment des saveurs un petit peu plus funky, un petit peu plus acidulées, qui sont absolument phénoménales. Donc, cette bière-là, je vous lis la description en arrière. Je ne l'ai même pas lu, je n'ai pas goûté, je ne sais pas. L'étiquette m'a intrigué et j'ai demandé à mon conseiller en bière. Donc, ça dit « Du temps de la chasse aux sorcières, une technique utilisée afin de savoir si l'accusé en était bel et bien une, consistait à attacher les pieds et les bras de la malheureuse et de la jeter dans un cours d'eau. Si elle coulait, on priait Dieu pour l'innocente. Par contre, si elle flottait, elle était immédiatement brûlée au bûcher. » Donc, c'était assez particulier parce que on noyait des fois des innocentes dans le but justement d'éliminer des sorcières. Ça dit extrêmement malté, extrêmement houblonné, extrêmement balancé, une vraie potion magique. C'est pourquoi on a appelé ça la noyade de la sorcière. Ça dit, comme toutes les bières de chez Microbrasserie Goudal, elle est non filtrée afin d'offrir un maximum de saveur. Salut! Évidemment, il y a de l'eau de l'orge, du blé, du houblon, de la levure. Oui, c'est une bière non filtrée. Moi, j'apprécie ça. C'est pas excellent pour toutes les bières, mais dans certaines bières, ça vaut vraiment la peine. La levure laisse une plus grande saveur. Une bière, la saveur, des fois, on ne se rend pas compte à quel point la levure influence la saveur de la bière et donne vraiment une signature, une particularité. Et lorsqu'elle est présente dans la bouteille, lorsqu'elle n'est pas filtrée, puis où est-ce qu'on n'a pas pasteurisé pour enlever justement cette levure-là, ça donne d'excellentes saveurs. Je vais vous la déboucher dans vos oreilles, je vais arrêter d'en parler. Je vais déposer ça. Et je la verse. Oh, c'est très parfumé. Évidemment, les IPA, c'est des bières extrêmement houblonnées qui sont bonnes lorsqu'elles sont bues fraîches parce que le houblon, il y a des composés aromatiques qui se dégradent extrêmement rapidement. Au bout de quelques jours seulement, ça a déjà beaucoup changé. Ça résiste mieux lorsqu'elle est réfrigérée. Mais faudrait pas acheter une IPA si ça fait plus d'un mois que c'est sur les tablettes. C'est vraiment une autre bière à ce moment-là. Je vais la sentir un peu. Et c'est drôle, il y a des odeurs qui me rappellent justement les sous-bois en Europe. Vous savez, les houblons, c'est des odeurs qui sont et des saveurs qui sont souvent très, très résineuses. Donc, ça me rappelle les sous-bois, certains arbres de ce coin-là. J'essaie de me souvenir aussi, ça rappelle aussi certains bonbons. J'arrive pas à mettre le doigt dessus, mais peut-être un petit peu peut-être pas les Rockets, mais quelque chose d'un peu fruité comme ça. Oh, c'est surprenant. C'est surprenant parce que les IPA, d'habitude, sont beaucoup plus sèches. Il y a beaucoup moins de sucre résiduel. Et là, c'est assez malté. C'est drôle parce que on dirait un hybride. C'est malté comme une IPA anglaise, donc une présence beaucoup de malt et une bonne rondeur en bouche parce que les IPA américaines sont plus sèches, moins sucrées. Et c'est houblonné vraiment à l'américaine. Saveur fruitée et tropicale, vraiment. Ça goûte aussi un petit peu la mangue. Des saveurs qui rappellent aussi certains vins licoreux blancs. C'est surprenant. Et oui. Donc, écoutez, je vous la conseille honnêtement. C'est un peu costaud. Je ne boirai pas tout ça durant l'émission. Sans ça, je vais me mettre à déparler. Ça va être assez solide, assez épouvantable. Mais honnêtement, je vous conseille d'encourager les brasseries indépendantes comme ça et à goûter ce genre de truc-là. C'est vraiment phénoménal. Je vais vous faire jouer une autre chanson tirée du même album de Band on the Run. Une chanson assez intéressante, plus smooth. Et on se reparle tout de suite après.
You see rain, it ain't bad. Don't complain.
Wow. Hey, je suis multitasking en salle. Vous devriez voir ça. Parce que je poste sur Facebook pendant les chansons pour dire que j'enregistre mon show. Je prends d'autres notes. Je fais toutes sortes d'affaires. Écoutez, il n'y a plus d'infini. Vraiment. Mais ça, c'est un côté vraiment le fun de la techno en ce moment parce que, justement, j'utilise une application de podcasting que j'ai déjà parlé qui s'appelle Boss Jock Studio qui peut servir à enregistrer, mais en ce moment, je m'en sers seulement pour faire jouer la musique puis pour lire mes notes parce qu'on peut faire ça dessus. C'est vraiment une application fantastique où est-ce que on peut lire ses notes. On peut faire jouer la musique, puis c'est les jingles. On peut même enregistrer directement. On peut même mixer la quantité qu'on veut de nos... comment je pourrais dire? La voix par rapport au son, tout ça. Et ça marche, et c'est merveilleux, c'est incroyable. De quoi je vais vous parler? Je vais vous parler un petit peu du timing au niveau technologique parce que ça arrive souvent dans le monde que deux personnes peuvent inventer à peu près la même chose, à peu près en même temps. Et deux personnes parfois qui se sont jamais parlé, qui se sont jamais vues. Il y a souvent des inventions, de grandes inventions qui sont dans l'air du temps et qui sont inventées parce qu'on est simplement rendu là technologiquement où est-ce que tout est là pour que cette invention-là ou que cette chose-là existe. Je vous donne l'exemple de la photographie. Il y a des dizaines de personnes qui s'étaient jamais parlé à travers le monde qui essayer de mettre au point la photographie parce que les produits chimiques pour réussir à le faire existaient. C'est Nicéphore Niépce et Louis Daguerre qui ont inventé. On dit que c'est Nicéphore Niépce le premier à avoir réussi à fixer une photo. Si ma mémoire est bonne, la première qui nous est parvenue a été créée en 1826. Fait presque 200 ans. Donc, mais officiellement, c'est pas lui l'inventeur de la photo parce que il n'a pas déposé le brevet en 1826. Le procédé, c'était très artisanal. Il fallait pouvoir le répéter, que ça puisse être quelque chose qui puisse être fait et reproduit. Donc, ce gars-là a travaillé avec Daguerre qui faisait des décors de théâtre et voulait trouver une façon de reproduire la réalité pour justement mettre dans ces décors de théâtre. Donc, se sont associés et Niépce est mort avant de réussir à perfectionner avec Daguerre la photographie. L'invention de la photographie, officiellement, c'est 1839, mais avant ça, Quand le brevet a été déposé, je pense que c'est Talbot, un Anglais qui était très actif au début de la photographie, qui a inventé toutes sortes de choses au niveau photographique, qui débattait pour dire « ben moi, j'en ai fait avant ». Puis il y a un Sud-Américain qui n'a jamais demandé la paternité de la photographie, mais on s'est rendu compte qu'à cette époque-là, lui aussi prenait des photos. Mais ça n'a jamais fait vraiment de vague. Donc, tout était là. Et moi, quand je donne des cours de photo, j'explique que la photographie existe parce qu'on a combiné trois inventions ensemble. La caméra obscura, qui existe depuis... ce principe-là existe et on le connaît depuis l'Antiquité. Quand on est dans une pièce noire, on perce un trou. Et sur le mur ou sur la surface qui est en face du trou, on va voir l'image de l'extérieur. On pourrait se mettre dans une pièce complètement isolée, faire un petit trou et sur le mur juste en face, mettre un écran blanc. Et on verrait l'image de ce qui se passe à l'extérieur. Évidemment, cette image-là, par un procédé optique, elle est inversée, complètement inversée, au bas, gauche, droite. Et c'est comme ça dans notre œil parce que la lumière passe dans un point central et ce qui passe à gauche, étant donné que ça passe par un point central, se retrouve à droite dans le fond de l'œil et vice-versa. Et ce qui est fascinant dans notre cas, c'est que c'est le cerveau qui fait le travail de remettre tout ça à l'endroit. Ce qui est vraiment, vraiment bien fait. L'être humain est extrêmement bien fait. Donc, la photographie a été inventée avec la caméra obscura, premièrement. Deuxièmement, avec les sels d'argent. Du nitrate de sodium, du sulfate de sodium aussi. Il y en a quelques-uns qui, c'est celles-là, lorsqu'exposées à la lumière, noircissent. Donc, s'ils ne sont pas exposés à la lumière, sont blancs ou argentiques. Et lorsqu'exposés à la lumière, ben, ils noircissent. C'est un procédé physique. Malheureusement, c'est que ces sels d'argent-là, ça, un coup que c'est noirci, après ça, dès qu'ils sont exposés après ça à la lumière, oui, ils noircissent, mais après ça, le noir commence à disparaître. Donc, c'est de fixer la photographie qui a été, fixer l'image qui a été difficile. Parce que, justement, la caméra obscura, je vous ai dit, le principe existe depuis longtemps. Les artistes s'en servaient. Et même Léonard de Vinci en a parlé dans un de ses codex, je pense que c'est le codex Atlanticus dans lequel il en a parlé. Et les artistes s'en servaient justement pour reproduire des scènes, reproduire des bâtiments pour leurs tableaux. Donc ça existe depuis longtemps, même que les artistes, lorsqu'ils se servaient de la caméra obscura dans les années 1600-1700, il y avait déjà une lentille dessus pour donner plus de précision et plus de clarté, plus que d'avoir un simple trou. Donc après ça, oui, les sels d'argent, c'est un produit qui a été découvert, bon, dont on a découvert que les propriétés permettait justement de conserver cette image-là noircie. Donc, c'est l'hyposulfate de sodium, si ma mémoire est bonne. J'ai l'air de sortir ça de mon chapeau, mais j'enseigne la photographie, donc à chaque année, j'en parle. Donc, ce produit-là a permis de fixer les premières photographies et ça a permis de donner naissance à ce qu'on connaît. C'est fascinant. C'est fascinant aussi parce que... justement, au départ, le procédé était plus difficile, était moins au point et les premières images étaient longues à obtenir, étant donné, les appareils n'étaient pas aussi perfectionnés, les éléments photosensibles n'étaient pas aussi photosensibles que la pellicule moderne, etc. Donc, ça prenait du temps. Ça prenait souvent pour un portrait les premiers, là, on parle d'une demi-heure et plus d'exposition. La première photo qui est parvenue jusqu'à nous, il y a une bizarre de lumière dedans parce que ça a été exposé pendant plusieurs heures. Donc c'est pour ça les premiers portraits de gens, on dirait mon Dieu, ils ont donc bien l'air sérieux, bêtes, rigides. Ils ont l'air d'avoir un manche à balai. Planté dans le derrière, c'est parce qu'il tenait la pose pendant longtemps et pendant ce temps-là, il ne fallait pas cligner les yeux, il ne fallait pas bouger, il ne fallait pas rien faire. C'est extrêmement long. Et ce qui est surprenant, c'est que la première photo où est-ce qu'on voit des êtres humains, parce que les premières photos, on a photographié, étant donné que c'était très long, on photographiait des choses qui étaient inertes, donc des bâtiments, des natures mortes, etc. Et la première fois qu'on a vu des êtres humains sur une photo, c'est une photo de la ville de Paris. Vous imaginez Paris, dans les années 1830, il y avait du monde qui se promenait en chevaux, à pied, et il y avait beaucoup de gens dans la rue. Sauf que, étant donné que ça prenait beaucoup de temps à exposer, étant donné que les gens bougeaient, on ne les voyait pas sur la photo. Les chevaux bougeaient, on voyait personne. Et cette première photo-là, qui est très célèbre, des rues de Paris prises par Daguerre, on voit deux personnes. on voit quelqu'un debout, puis on voit quelqu'un d'assis, puis c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est arrêté faire cirer ses chaussures. Fait qu'on voit la personne qui a le pied relevé pour faire cirer sa chaussure, et on voit la personne qui est en train de s'affairer à cirer la chaussure, ce qui est vraiment surprenant. Donc, ça s'est développé extrêmement, extrêmement rapidement, la photographie, le négatif souple. Ben justement, au début, bon, c'était sur plaque de zinc, après ça, le négatif sur verre, après ça, le négatif souple est apparu très rapidement dans les années 1800. Même la photographie couleur, la première photographie couleur, on parle des années 1860 à peu près, que c'est arrivé. Donc, ça s'est passé très rapidement. La seule chose, c'est que les procédés pour faire de la photo couleur, par exemple, un procédé simple d'utilisation, ça a pris du temps. Ça a pris le négatif souple, ça a pris le Kodachrome, si ma mémoire est bonne, autour des années, fin des années 20, début des années 30, en tout cas. Et tout ça est fascinant. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce qu'on appelle des autochromes, un procédé de photocouleur français mis au point, je crois, fin 1800, début 1900. Donc, il y a des super photos de la Première Guerre mondiale en couleur, Monet dans son jardin de fleurs, etc. C'est magnifique. Donc, tout ça, évidemment, évidemment, toute la technologie, l'évolution de la technologie me fascine énormément. Et il y a différentes inventions comme ça qui ont été mises au point en même temps. Oui, la photographie, je vous en parle depuis tantôt, mais aussi le cinéma. Les frères Lumière ont damé le pion lors du dépôt de leur brevet, mais de quelques jours, sinon quelques heures, face à Thomas Edison, qui essayait de faire la même chose. Et il y a plusieurs exemples comme ça, par exemple le téléphone, Graham Bell qui a damé le pion de, je ne sais pas si c'est de Marconi ou je crois que oui, etc., etc. Donc, il y a toutes sortes de choses comme ça qui, lorsque le temps arrive, c'est une question des fois de jours ou d'heures avant que ça soit au point puis qu'on puisse dire qu'on l'a fait. On l'a mis au point, qu'on dépose un brevet, etc. Donc, ça me fascine. Ça me fascine énormément. Il y a une question, c'est pas une question de hasard, bien souvent. On pense des fois, c'est un hasard. Il y a deux personnes à deux endroits dans le monde qui ont mis au point ou qui ont pensé la même chose. Et c'est pas un hasard. Et ça va se produire de plus en plus parce que, avec la mondialisation, avec le web, on a tous les mêmes influences, on voit tous les mêmes choses, on a accès aux mêmes technologies et de plus en plus, vous allez voir, on va produire en même temps exactement la même chose, pas parce qu'on se côtoie, pas parce qu'on se connaît, mais tout simplement parce que l'idée est mûre pour naître. Parlant de technologie, je termine en vous parlant de Elon Musk, le patron de Tesla. Tesla, qui est une compagnie de voitures, le nom est inspiré de Nikola Tesla, qui est un grand inventeur, surtout des années 1800-1900. Et puis, laissez-moi prendre une gorgée, attendez un peu. C'est vraiment excellent. Donc, ce cher Nikola Tesla, qui a inventé justement le courant dont on sert chez nous. Donc, il y avait le courant alternatif et le courant continu. Et il y avait le rival de Nikola Tesla, qui est Thomas Edison, qui est beaucoup plus connu, qui lui aurait voulu l'autre type de courant. Et on sait évidemment aujourd'hui que ça n'aurait pas été possible, ça n'aurait pas été soutenable et ça aurait été beaucoup trop dangereux. Mais justement, Thomas Edison aurait tellement voulu gagner. Sa vie n'était que d'essayer de gagner sur les autres. Donc, je vous parlais d'Elon Musk, le patron de la compagnie Tesla qui fabrique des voitures ultra performante. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a une Tesla cette semaine qui a eu une cote de 103 sur 100 lors de tests, puis ils ont été obligés de rechanger leur façon de tester parce que c'est simple, cette voiture-là est considérée comme tout simplement la meilleure voiture de tous les temps. Pas la plus rapide, pas celle qui offre la meilleure accélération, quoique l'accélération, tu sais, 0 à 100 en 3,5 secondes environ, c'est hallucinant. Mais la voiture la mieux conçue, la mieux faite, celle qui fonctionne le mieux, qui dépense le moins d'énergie, qui, bref, une sacrée bonne voiture. Le patron de cette compagnie-là, Elon Musk, a des tentacules un peu partout. Et c'est un homme absolument fascinant parce qu'il a un pouvoir d'attraction énorme. Évidemment, s'il s'était planté avec la Tesla, on n'en parlerait pas autant. Mais étant donné qu'il réussit énormément avec cette compagnie de voitures-là et quelques autres choses aussi, c'est un gars qui a un pouvoir d'attraction énorme et qui fait en sorte que beaucoup de gens veulent travailler avec lui. Je vous parle d'Elon Musk à cause de l'Hyperloop. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce principe-là, qui est un principe de transport qui est encore simplement à l'étape de concept sur papier ou dans les cerveaux ou des concepts dans l'ordinateur, mais c'est un principe qui est digne de films de science-fiction ou des Jetsons, peut-être un peu plus. Où est-ce qu'on voyagerait dans un tube, donc un immense, assez gros tube, où est-ce qu'il y aurait des petits véhicules, donc des petits wagons circulaires, qui voyageraient à des vitesses qui avoisineraient la vitesse du son. Comment ça fonctionnerait? Bien, c'est un tube où est-ce qui serait complètement sous vide, et ce qui permettrait de propulser justement ce tube-là à des vitesses phénoménales. faut dire que faire voyager des choses dans des tubes comme ça, à des grandes vitesses, c'est un principe, c'est une technologie qui existe déjà depuis extrêmement longtemps. Vous avez peut-être déjà vu dans des films, ou vous avez peut-être déjà entendu parler, ou peut-être même vu de vos yeux vus, parce que ça existe encore à certains endroits, dans certains bâtiments, des tuyaux pour mettre des tubes dans lesquels on envoie des messages. Moi, je vois ça un peu comme les ancêtres des courriels. J'ai déjà vu ce système-là, pas en action, mais dans un vieux bâtiment à Montréal où est-ce qu'il y avait ça, qui n'était plus actif malheureusement. Donc, un système de tuyaux, et c'est... Les messages étaient mis dans des petits tubes, donc les feuilles étaient mises dans un petit tube. Et c'est un système d'air sous pression qui poussait ou qui tirait pour que les messages se transportent. Et ça se transportait d'un étage à l'autre. Et je sais qu'à Chicago, ça se faisait même entre certains bâtiments. Je crois à New York aussi. Le plan était que ça se fasse à plus grande échelle. Ça ne s'est jamais réalisé vous imaginez la complexité de faire ça entre les bâtiments. Donc, de creuser la terre, de passer ça sous la terre. Ça aurait été complexe. Mais le principe est quand même intéressant. Pas simplement par la rapidité, mais si on pense dans les bâtiments, où est-ce que moi, celui que j'ai vu, il y avait environ, c'était entre 5 et 10, un peu plus que 5, un peu moins que 10, tuyaux comme ça qui répartissaient les trucs et ça se faisait de façon automatique où est-ce qu'on pesait sur un bouton, on disait comme un bouton d'appartement, on pèse sur le bouton pour dire envoyer ça à tel bureau et schlac, 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 le système pneumatique envoyait ça au bon endroit, ce qui est assez surprenant. Donc, c'est ce principe-là de Hyperloop. On pense que c'est dans le futur, on pense que c'est très, très loin d'aujourd'hui. Mais on parle d'un prototype, donc une piste de 5000, donc environ, pas loin de 8 km. Où est-ce que on ferait ça? Pas dans 20 ans, pas dans 30 ans, on parle l'an prochain qu'on va installer ça. La façon que ça fonctionne, cette compagnie-là, donc c'est une compagnie dans laquelle il n'y a pas vraiment d'argent ou il y a peu d'argent, c'est une grosse start-up. Mais comme je le disais, Elon Musk a un pouvoir d'attraction justement par sa réussite. Moi, je trouve que c'est un gars qui est moins médiatisé que l'était Steve Jobs, mais qui a une énorme importance au niveau technologique, au niveau même... l'avenir en général, c'est un homme qui veut faire en sorte qu'on dépense moins d'énergie, qu'on soit plus écologique. Bref, que ça fonctionne mieux dans le monde. Et ce qui est très, très, très louable, on s'entend. La façon que ça fonctionne, justement, il y a plusieurs ingénieurs. Je crois que j'ai lu, il y a quelque chose comme, je ne me rappelle plus combien, mais quelque chose comme 400 personnes qui travaillent là-dessus, pas tous à temps plein, mais à temps partiel, des gars qui sont des pigistes, qui travaillent souvent avec la NASA, avec Boeing, avec les grands fabricants aéronautiques de ce monde. Ils sont payés comment? Étant donné que c'est une start-up, il n'y a pas beaucoup d'argent, ils sont souvent payés en actions. Donc, dans l'espoir que ça fasse, justement comme Tesla, que ça connaisse un énorme succès, et que ça devienne extrêmement rentable, et on espère que ça le devienne. Ces gens-là, puis on pourrait dire, hey, techniquement, c'est difficile, c'est épouvantable, mais les ingénieurs qui travaillent là-dessus disent que c'est beaucoup plus facile que les défis qu'on leur donne, justement, de, par exemple, faire voler d'énormes avions... de plus en plus grosse, avec de moins en moins de carburant ou ce genre de trucs-là. Donc, ils disent que c'est beaucoup plus facile. La grande difficulté là-dedans, c'est pas d'avoir un tube dans lequel on fait le vide, mais c'est surtout de réussir à faire le vide sur des longues distances. Probablement qu'il y aurait des relais. Donc, où est-ce que il y aurait des segments fermés et on voyagerait en fait d'un segment à l'autre. On parle d'un déploiement et commencer à mettre en œuvre cette technologie-là d'ici 5 ans. Donc, vous pouvez vous imaginer, ça va vite. Et ça, c'est l'avantage justement de la technologie d'aujourd'hui et de réseaux comme ça. Développer ce genre de choses-là, il y a même 10 ans, c'était impensable parce qu'on travaillait en vase clos. On travaillait de façon beaucoup plus cloisonnée qu'aujourd'hui. Et là, maintenant, c'est comme ça devient possible. Et il y a 10 ans, il y a 5 ans, on aurait dit à quelqu'un, un top ingénieur aéronautique qui travaille avec la NASA, tu sais, travaille gratuitement en échange d'actions, puis travaille sur ce truc-là, ça va marcher, puis... On nous aurait traités de fous, on n'aurait pas voulu. Et aujourd'hui, justement, la notoriété d'Elon Musk, l'évolution des technologies, l'évolution des communications et des façons de faire fait en sorte qu'aujourd'hui, oui, c'est différent et ça se fait extrêmement rapidement parce que, justement, un gars comme Elon Musk, quand il y a une vision, on se dit pas « c'est pas possible, ça marchera pas ». Tout le monde embarque dans cette vision-là et travaille pour faire en sorte que ça fonctionne. Je l'ai comparé à Steve Jobs un peu. En même temps, c'est un bonhomme très différent de Steve Jobs. Steve Jobs, c'était un freak, quelqu'un de très contrôlant, dans le sens que même souvent, il faisait de la micro-gestion, puis il s'occupait de détails. Tout était dans le détail. Et il pouvait penser un truc à 2 heures du matin parce qu'il dormait pas, puis appeler quelqu'un. Puis pour des détails, il a déjà appelé Mark Zuckerberg pour lui parler du bleu de Facebook, comment le bleu de Facebook sortait pas bien sur l'iPhone, puis que son équipe, il avait appelé quelqu'un de son équipe pour travailler là-dessus. Ça, c'est le genre de détails, c'est le genre de choses que Elon Musk ne fait pas. Lui, il y a plusieurs projets de front, il mène plusieurs projets de front, plusieurs guerres à la fois. Il l'a dit lui-même, il a lancé cette pierre-là à l'eau, mais il n'a pas le temps de s'en occuper, il y a déjà beaucoup de choses à s'occuper. Donc, moi, j'espère ça. J'espère que ça va arriver souvent. Je m'imagine, parce que j'enseigne à Sherbrooke, je dois faire un peu plus d'une heure de voiture. Et je m'imagine embarquer là-dedans. Et si on avoisine la vitesse du son, arriver en quoi, 15 minutes, 12 minutes à Sherbrooke, ce serait absolument hallucinant. Ça serait hallucinant parce que ça me sauverait du temps. Sinon, l'autre chose que j'attends impatiemment, c'est les autos qui se conduisent tout seuls. On parle aussi d'un horizon de 5 ans avant que ce soit une réalité. D'avoir des voitures qui se conduisent tout seuls, moi, j'adorerais avoir une voiture qui se conduit tout seul et pouvoir travailler sur mon ordinateur pendant que je fais le trajet. Donc, je me souhaite ça pour 2020. Soit le Hyperloop, soit ça. J'espère que ça va se passer. Ça fait déjà une heure que je vous déblatère une foule d'informations, que je vous donne mes états d'âme sur la technologie, sur différentes choses auxquelles je pense. Et c'est drôle, le truc du Hyperloop, c'est le genre de choses auxquelles que j'avais imaginé quand j'étais petit. De faire des petits wagons comme ça qui voyagent en continu dans des tuyaux. Et j'ai même imaginé, moi, qui viens du Bas-Saint-Laurent, qu'il y avait ça sur le bord de l'autoroute. J'avais cette vision-là quand j'étais petit cul, qu'il y avait un truc qui voyageait, un train qui voyageait dans des tuyaux, même en plexi transparent, près de l'autoroute, à des vitesses phénoménales. Et que ça dépassait les voitures rapidement. Donc, on se le souhaite dans un futur et on souhaite que ça ne sera pas polluant, évidemment. Avant de terminer, ben, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Je vous rappelle l'adresse courriel. Ça fait longtemps que je n'ai pas reçu de courriel et je vous mets au défi de m'en envoyer un. Envoyez-moi un courriel de commentaire, ça me ferait énormément, énormément plaisir. Québec Balado. @commercial@gmail.com. Vous pouvez m'envoyer, si on se connaît aussi, un message sur Facebook ou sur Twitter. Ça me fera extrêmement plaisir. Quoique, je vous le dis, dernièrement, je suis moins présent, moins actif sur Facebook, ce qui fait en sorte que je fais plus de podcasts, que je suis aussi moins distrait, plus de focus, et ça me fait un bien énorme. Et je suis excité toujours à l'idée de produire d'autres podcasts. Donc, je vous laisse une dernière fois avec Paul McCartney and The Wings avec quelle chanson? Oui, j'avais prévu celle-là que j'aime énormément. Un grand classique. Je vous laisse avec Bluebird.
Late at night when the wind is still, I'll come flying through your door. And you'll know what love is for. I'm a bluebird.
I'm a bluebird. I'm a bluebird. I'm a bluebird.
Yeah, yeah, yeah.
I'm a bluebird. I'm a bluebird. I'm a bluebird.
Yeah, yeah, yeah. Touch your lips with a magic kiss, and you'll be a bluebird.
I'm a bluebird, I'm a bluebird, I'm a bluebird.
Yeah, yeah, yeah.
I'm a bluebird, I'm a bluebird, I'm a bluebird.
Yeah, yeah, yeah. Bluebird. As we head across the sea.
trees, and we're flying in the breeze. We're the bluebirds, we're the bluebirds, we're the bluebirds, we're the bluebirds.